Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir l'immense gâchis économique en vue de la construction de l'Airbus du rail entre Français et Allemands. L'Europe a mis aujourd'hui son veto afin d'éviter une solution de monopole. Dossier complet ce soir dans RTL Grand Soir. L'épouse du boxeur cogneur d'un samedi de janvier de contestation, Karine Détinger, s'est confiée dans RTL Soir à Marc-Olivier Fogiel, demande pardon pour son mari. Autre témoignage dans RTL ce soir, celui d'une amie de l'incendiaire présumé de l'incendie criminel d'hier à Paris. Le football, la Coupe de France, la suite des huitièmes de finale, ça a été chaud pour le Paris Saint-Germain. Poussé à la prolongation par le petit club national de Villefranche de Beaujolais, le PSG s'impose finalement 3-0. Autre qualifié, Vitré, club national 2 devant Lyon, la Duchère 3-2. Et match en cours entre deux équipes de Ligue 1 ce soir pour la Coupe de France. Rennes face à Lille, Philippe Audouin.
0-0 à la mi-temps, Christophe, mais Lille est réduit à 10 suite à l'expulsion de son capitaine Soumaoro.
À la fin de votre journal Le Portrait du soir, la météo, ce sera pluvieux un peu partout demain matin, sans oublier à 22h20 votre magazine de l'écho. On parlera de réparation, tiens, nouvelle génération pour vos petits vélos préférés, avant comme chaque soir de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Une question, y a-t-il quelqu'un dans la salle pour s'opposer au mariage annoncé entre l'Allemand Siemens et le Français Alstom dans le but de créer un Airbus du rail? La réponse est oui, en l'occurrence la Commission européenne qui Benjamin Sportouche a mis en émoi les grands décideurs de notre pays.
Oui, le gouvernement est le premier à dénoncer cette décision de Bruxelles, accusée d'empêcher la naissance d'un géant des rails sur le modèle d'Airbus. Le Premier ministre Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements.
Mais l'exécutif en est réduit à des incantations. Selon un ministre, la Commission européenne ne reviendra pas en arrière. Une commission qui, pour une fois, fait le bonheur des eurosceptiques. Le communiste Fabien Roussel au micro de Vincent Derosier.
Oui, c'est une bonne décision puisque nous avions dénoncé cette fusion entre Alstom et Siemens qui était dommageable parce qu'elle ne se faisait pas au profit d'un vrai projet industriel mais juste pour des questions de rentabilité, de logique financière.
Et même satisfaite de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, avec Émilie Beaujard.
C'est une manière de brader totalement un des derniers fleurons et qui aurait consisté à faire un cadeau d'une somme inestimable à Siemens, sans qu'évidemment les intérêts ni de la France ni des Français soient défendus dans ce mariage.
À 4 mois des européennes, Marine Le Pen se réjouissant d'une décision de Bruxelles qui protège les intérêts français. La politique nous réserve encore et toujours son lot de surprises.
Oui, Benjamin Sportouche, service politique d'RTL. Décision extravagante pour le Premier ministre, vous l'avez entendu, absurde, inacceptable pour beaucoup, mauvais coup porté à l'Alliance européenne. On reviendra à la fin de ce journal sur cette fusion interdite avec le représentant en France de la Commission européenne, Guillaume Rotti, qui sera avec nous en direct ce soir dans RTL Grand Soir. 22h03, au lendemain de l'incendie criminel de l'immeuble parisien de la rue Erlanger, qui pour l'heure a fait 10 morts et des dizaines de blessés, dont une personne qui est encore en urgence absolue. Une messe était célébrée ce soir en mémoire de victimes. Vincent Serrano, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce, en l'église Saint-François-Molitor, dans le 16e arrondissement de la capitale.
Oui, dans cette petite église à 100 mètres à peine de l'immeuble touché par l'incendie. Et c'est finalement tout un quartier qui est venu témoigner de sa solidarité. Maman est une ancienne voisine.
Personne ne mérite de mourir comme ça, mais quand je pense à ça, je me dis que c'est pas possible. C'est une manière de me joindre à la douleur de tout le monde, de notre quartier, de notre arrondissement. Ça va être leur dernière demeure après, donc je suis solidaire. Voilà. Et puis ça va peut-être m'apaiser. Peut-être.
Derrière l'hôtel, devant la douleur des habitants, le père Didier a donc choisi tous ces mots.
Comment cela est-il possible? Comment Dieu peut-il permettre cela? Et pourquoi tant de vies innocentes ainsi brisées? Je pense bien sûr aux défunts et je pense aux blessés et à leurs proches. Mais la foi chrétienne nous dit que l'histoire ne s'arrête pas là.
Et beaucoup de familles à la fin devant l'église, comme celle de Paul, soulagées, dit-il, d'avoir pu venir ici ce soir.
On compatit, c'est notre manière à nous d'être avec les victimes et leurs familles, ouais, et espérer pour ces défunts.
Et ils ont été nombreux à la sortie de la messe à tourner sur la gauche pour venir déposer des fleurs, des roses blanches aussi, au pied de l'immeuble de la rue Erlanger.
Vincent Serrano pour RTL. Parmi les 10 victimes de l'incendie, 6 corps ont pu être identifiés. Précision signée du procureur de Paris ce soir. Rémi Hetz, parmi eux, celui de Jonathan. Son père avait lancé un appel poignant ce matin sur RTL pour tenter de le retrouver. Il écrit ce soir sur sa page Facebook que son fils n'a jamais pu quitter sa chambre. La rue Erlanger toujours interdite à tout passage. Quant à l'incendiaire présumée, très fragile psychologiquement, elle est toujours sous surveillance dans une unité spécialisée. Une de ses amis qu'il a connu lors d'une hospitalisation a bien voulu, sous couvert de l'anonymat, revenir sur le côté instable d'Essaya, déjà interné une dizaine de fois.
Essaya au quotidien était bienveillante et elle voulait s'en sortir. Si elle était en cure, c'était pour s'en sortir. Elle n'était pas dans le déni, elle savait qu'elle était dangereuse sous alcool, elle le sait. À jeun, Essaya est incapable de faire du mal, c'est une non-violente. À jeun, on est des véritables bombes à retardement sous l'effet de l'alcool. On est des machines de guerre. Voilà, on peut devenir des criminels, mais on ne se souviendra plus. Et encore une fois, j'apporte mon soutien à toutes ces personnes et leurs familles, toutes les personnes décédées. J'ai envie de tous les prendre dans mes bras. Et je veux aussi, si Essaya m'entend, lui dire que je sais qu'elle ne se rappelle pas. Je le sais, elle ne ment pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. C'est un vrai blackout, c'est très très difficile à expliquer. Mais ce n'est pas elle, on devient des monstres. Mais elle aussi, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Je sais par quoi elle passe. Je sais qu'elle ne supportera pas d'apprendre que c'est elle qui a fait ça.
L'ami d'Essaya avec Olivier Bois, témoignage donc recueilli par le service police-justice de la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Le chef de la sécurité du Premier ministre, entendu aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Benalla et du tout dernier épisode en date de ce feuilleton en rebondissement, suite à l'enregistrement d'une conversation privée entre l'ancien conseiller d'Élysée et Vincent Crase, un de ses amis à La République En Marche. Discussion diffusée par nos confrères de Mediapart et qui aurait été enregistrée chez la chef justement de cabinet. Le site affirme qu'il y a bien eu une lettre venant des services de Matignon, qui serait d'ailleurs à l'origine de l'enquête sur le lieu de l'échange entre les deux hommes proches du pouvoir. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux s'en est expliqué.
Moi, ce que je sais, c'est que d'abord, des journalistes ont questionné les services de Matignon et qu'en réponse aux questions des journalistes, Matignon a vérifié qu'il n'y avait pas eu d'écoute administrative qui a été autorisée concernant les protagonistes que vous citez pendant la période des faits. Et puis, je rappelle aussi simplement, mais c'est bon parfois de rappeler des principes de base dans une démocratie, c'est qu'en France, l'autorité judiciaire agit de manière indépendante. Liberté des sources pour les journalistes, liberté tout court pour les concitoyens.
Voilà pour le sentiment du gouvernement et puis la réaction dans la foulée, dans l'opposition ce soir. Sur le côté un peu sparadrap, voyez-vous, de façon capitaine ad hoc d'Alexandre Benalla et ce avec le député républicain Éric Ciotti.
Dans cette affaire, depuis le début, le gouvernement, la présidence de la République manifeste une fébrilité qui semble vouloir dissimuler des éléments qui seraient à cacher. Pourquoi cette volonté de protéger M. Benalla depuis le début? Pourquoi cette volonté d'attaquer systématiquement ceux qui font des révélations? On a le sentiment qu'il y a dans cette affaire deux poids, deux mesures. Je demande aujourd'hui que craint le pouvoir dans cette affaire.
Éric Ciotti aux côtés de Vincent Derosier. À l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu tout au long de la journée aujourd'hui les principaux responsables politiques. Marine Le Pen a réclamé tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale dans le bureau même du président. Emmanuel Macron qui reprend la route demain pour se rendre à Autun et rencontrer notamment des jeunes de la région pour continuer bien sûr sa grande tournée concernant le grand débat. Et puis on l'a appris en fin d'après-midi, la démission du parti, en tout cas du parti de La République En Marche, du député Mathieu Orphelin, en raison d'avancées jugées insuffisantes en matière d'enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Et puis pendant ce temps-là, le début de l'Olovan Tour façon Mélenchon a commencé avec des hologrammes des différents candidats de la France insoumise désignés pour les prochaines européennes qui sont diffusés autour d'un camion prévu à cet effet d'un nouveau genre.
RTL Grand Soir.
Document RTL, l'invité d'RTL Soir tout à l'heure, l'épouse du boxeur cogneur filmé en train de frapper des policiers au début de l'année. Et il est, vous savez, encore en prison. Elle est venue, elle, Karine, ce soir, défendre son mari, toujours en prison depuis le 7 janvier. Karine Détinger.
Il est complètement dépassé par ce qui s'est passé. Il regrette infiniment. Il me met dans un courrier. Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour récupérer tout ce temps perdu avec nous, avec vous.
Il vous demande presque pardon à vous, mais est-ce qu'il demande aussi pardon à ses forces de l'ordre, finalement, s'en être pris à elles, alors que malgré tout, elles étaient là pour faire régner.
Oui, ils regrettent, oui. Ils demandent pardon, oui.
Ils demandent pardon à la police.
Oui.
Ça, il vous l'a dit.
Ils demandent pardon aux deux hommes qu'il a violentés, oui.
Mais vous comprenez que la justice doit passer, et vous comprenez qu'ils soient condamnés.
Oui, qu'ils soient condamnés à la hauteur de sa violence. Ça arrive tous les jours, des flics qui se font taper par des citoyens. Et ils ont pas 7 ans de prison. Enfin, Alexandre Benalla a tapé sur des citoyens français. Il dort chez lui. Mon mari, il est en prison. S'il n'a pas sa place en prison.
Karine Détinger avec Marc-Olivier Fogiel ce soir dans RTL Soir. Rappelons que son mari boxeur sera jugé mercredi prochain. Le rapport annuel de la Cour des comptes, toujours à la recherche, vous le savez, d'une éventuelle gabegie dans différents domaines publics. Eh bien, ce rapport pointe du doigt aujourd'hui tout d'abord le gouvernement et son défi annoncé de baisser les dépenses. Les 11 milliards d'euros perdus en pleine crise des Gilets jaunes ont bien sûr fragilisé les comptes de l'État. Et puis la Cour épingle également d'autres secteurs comme la gestion du mobilier national, la décoration de certaines résidences présidentielles ou encore les avantages accordés aux salariés d'EDF. Et bien sûr, les urgences hospitalières. Souvent mal gérées, certaines salles sont vides alors que d'autres sont saturées, à l'image de l'hôpital Lariboisière à Paris, où les soignants là sont débordés. Reportage en immersion, signé ce soir Quentin Vinet.
Oui, un employé enregistre les arrivées sur un ordinateur. Une infirmière appelle les malades ce soir-là dans la petite salle d'attente où défile un homme avec la jambe en sang ou cette dame qui ressort après quelques minutes seulement.
J'aurais pu attendre pour voir un médecin, mais j'ai pas voulu parce que la réponse de ce que m'a dit l'infirmière, ça suffit. C'était pas un truc très grave. À part qu'il y en a deux qui sont sur les brancards, un par terre encore. Enfin, il y a toujours des cas.
Une vingtaine de personnes s'occupent du service, mais ce n'est pas assez et les délais peuvent être longs. La preuve avec Michel qui accompagne sa femme.
6h ce matin, nous sommes arrivés ce matin à 6h. Théoriquement, ça devait durer que 2 heures. Et là, on vient d'apprendre, donc à 9h et quelques du soir, qu'elle va rester là cette nuit. Et que donc, je vais ramener ça demain après-midi pour savoir ce qu'elle a.
Parfois, les agents de sécurité et même les secours donnent un coup de main. Aucun répit pour le personnel soignant entre les patients et leurs proches qui veulent des nouvelles comme Gabriel.
J'ai attendu 2 heures. L'infirmière est venue vers moi. C'est vous qui étiez là. Oui, elle m'a posé des questions à part et j'ai répondu. Et après, elle est repartie.
Le personnel absent est maintenant remplacé. Mais d'après un syndicat, la situation n'a pas vraiment changé depuis la mort d'une patiente en décembre dernier, retrouvée sans vie sur un brancard près de 12 heures après son admission.
Le reportage de Quentin Vinet à l'hôpital Lariboisière de Paris pour RTL. Le football, la Coupe de France, la suite des 8e de finale. Et ce soir, le PSG a tremblé. Après avoir fêté l'anniversaire de Neymar, 27 ans, tout de rouge vêtu, ils ont joué ce soir contre Villefranche de Beaujolais, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il a fallu donc attendre la prolongation pour que le PSG s'en sorte facilement pour ces 2 fois 15 minutes. Victoire 3-0. Sentiment quand même après cette belle aventure du président de Villefranche de Beaujolais, Philippe Thériault, côté de Willy Maisonas.
La déception de la défaite est retombée parce que voilà, on veut toujours... Voilà, on prend goût, on a vu qu'on a réussi à les tenir un petit peu, donc on espérait aller jusqu'au pénalty, mais je pense qu'avec le peu de recul déjà qu'on a, on commence à réaliser déjà qu'on a fait un bon match, qu'on a fait plaisir aux gens et qu'on a réussi à tenir jusqu'aux prolongations une équipe qui va peut-être gagner la Ligue des Champions, donc c'est pas neutre. Après voilà, je pense que la prolongation était un peu de trop. Ils ont fait rentrer les monstres et puis ça fait la différence.
Ça fait la différence, Philippe Tessier avec Willy Maisonas. Victoire également de Vitré contre Lyon, la Duchère tout à l'heure 3-2. On attend maintenant le dernier qualifié ce soir, ce sera Rennes ou Lille. On fait un point rapide avec vous, Philippe Audouin.
Et toujours 0-0, Christophe, Rennes qui joue à 11 contre 10, je vous le rappelle, avec l'expulsion côté lillois du capitaine Soumaoro à la 19e minute. Lille qui a vu la première occasion franche en début de match, mais ensuite, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'est Rennes qui aurait pu ouvrir le score avec 2 belles occasions, mais 0-0 entre les deux équipes après 5 minutes en deuxième période.
Sport de saison, les championnats du monde du ski en Suède et la très belle médaille d'argent en Super G pour le vétéran français Johan Claret, 38 ans, dauphin aujourd'hui de l'italien Dominique Paris. Ça s'est passé à Orre en Suède aujourd'hui. La météo, on va pas rouler les airs avec vous, Louis Baudin, mais attention, hein, ça sera pluvieux visiblement demain. Bonsoir à vous, Louis.
Bonsoir Christophe. Alors demain, il faut prévoir de nouveau le parapluie. Pourquoi ? Parce qu'une perturbation va traverser toute la France d'ouest en est. Pas forcément très active, mais à un moment ou à un autre, il y aura de la pluie. Alors le matin, ça sera de l'Aquitaine à l'Île-de-France, à toutes les régions du nord-est. Et puis l'après-midi, ça sera entre les Pyrénées, le Massif central, la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Alors à son passage, des nuages, de la pluie et ça donnera de la neige des 1000 ou 1200 mètres à peu près sur tous les massifs en fin de journée, sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, centrale et les Pyrénées. Avant et après son passage, il y aura quelques éclaircies, mais également des averses l'après-midi, notamment près de la Manche et plus généralement au nord de la Loire. Le soleil résistera un peu mieux près de la Méditerranée. Puis côté température, bien la hausse se poursuit. Encore quelques gelées le matin dans les régions de l'Est, mais l'après-midi, on sera entre 9 et 12 degrés dans la moitié nord et de 12 à 15 degrés dans le sud.
Merci beaucoup, Libaudin, à suivre. Le retour sur les raisons de la colère du couple franco-allemand en matière d'Airbus du rail avec la réponse négative. Les raisons du veto, justement, européen, avec ce soir son représentant en direct avec nous, ce soir, Guillaume Rotti. Dans une minute, puis le magazine des L'Écho, et à 22h25, la chanteuse Yara Lapidus viendra nous rendre une petite visite d'ici 22h30.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.